À Noël, nous fêtons la venue de Jésus, dit le Christ. Or, Christ veut dire, en grec, le Messie. C'est-à-dire que nous chrétiens, nous disons, le Messie est venu et c'est Jésus-Christ. Mais c'est une affaire compliquée parce que vous savez que l'Ancien Testament annonce en effet la venue d'un Messie. Et normalement, quand ce Messie sera là, eh bien, on l'a lu dans Ésaïe 11 par exemple, à ce moment-là, tout sera en paix. Il n'y aura plus de guerre, plus de violence, le loup séjournera avec l'agneau sans le dévorer, et l'enfant pourra se coucher en sécurité sur le nid de la vipère. Or voilà le problème. Aujourd'hui, les loups mangent encore les agneaux, et il n'y a absolument pas la paix sur la terre, mais il y a des guerres et des violences partout. Par conséquent, Jésus est-il vraiment le Messie ? C'est à cause de cela que nos frères juifs disent « Jésus n'est pas le Messie ». Il n'est pas le Messie puisque s'il était le Messie, il n'y aurait plus de guerre. L'affaire est très claire. Et donc, comment nous, chrétiens, pouvons-nous justifier que Jésus soit le Messie, bien que toutes ses promesses ne soient pas réalisées ? Certains chrétiens contournent la difficulté et disent qu'en fait, ils attendent le retour du Christ et que quand le Christ reviendra, alors toutes ces promesses seront réalisées. Mais ça, c'est une tromperie, parce que s'il faut attendre le retour du Christ pour que les promesses de Dieu se réalisent, c'est que Jésus est venu pour rien. Et à ce moment-là, c'est qu'à Noël, nous ne fêtons pas la venue du Messie, mais une sorte de pré-échantillon publicitaire totalement inefficace. Par conséquent, je ne peux pas, moi, me soumettre à une telle idée. Je pense que si je suis chrétien, je dois admettre que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, et que par conséquent, il y a quelque chose de l'ordre de ces promesses messianiques qui sont réalisées. Et en effet, pour comprendre cela, eh bien, il faut voir ce qui se passe auprès des bergers. Les bergers, justement, juste après la naissance de Jésus dans Luc, c'était des juifs tout à fait ordinaires qui attendaient le Messie. Et voilà que l'ange va apparaître et va leur faire non seulement la bonne nouvelle de la naissance du Messie, mais aussi un certain nombre de leçons théologiques fondamentales, leur montrant qu'il faut qu'ils repensent entièrement leur affaire. Parce qu'en effet, je vous ai dit, le Messie, il vient accomplir les promesses de Dieu. La question, c'est qu'est-ce que l'on attend de Dieu, en fin de compte ? Et peut-être que le problème, ce n'est pas tellement que Jésus ne donne pas ce qu'il devrait, c'est que nous attendons autre chose que ce que Dieu est en mesure de donner. Et c'est bien ce qui va se passer. Les anges vont expliquer aux bergers que le Messie ne vient absolument pas comme ils pensaient et qu'il ne faut pas croire que Dieu devrait accomplir ses promesses d'un point de vue matériel et d'une façon spectaculaire dans ce monde, et que par conséquent il n'y a pas à attendre de Dieu une sorte d'action politique pour faire la paix dans le monde ou d'autres choses, mais que c'est tout à fait d'une autre manière que Dieu va se révéler. Alors on le voit, le signe d'abord que donne l'ange aux bergers, il leur dit, donc le Messie arrive, et il leur dit, le signe qui va être donné, c'est un bébé dans une étable. Alors là, c'est un premier choc culturel pour ces bergers. Parce qu'eux attendaient un Messie glorieux, je vous ai dit, plein de force, plein de puissance. Et eux ont l'habitude que quand Dieu se manifeste, eh bien, il y a des tremblements de terre, il y a des éclairs, il y a des grandes lumières, des roulements de tambours, des sons de trompettes extraordinaires. Et là, quel est le signe qu'il leur est donné ? Ce n'est rien de tout ça, c'est un petit bébé dans une étable, c'est-à-dire c'est un signe infiniment petit et faible, et je dirais un bébé c'est tout à fait impuissant. Et donc voilà la première chose, vous disais-je, c'est qu'il faut changer de théologie. Les bergers attendaient un Dieu tout-puissant, et voilà que leur est manifesté un Dieu fragile, un Dieu faible, un Dieu petit et, je dirais, tout minuscule comme un bébé dans une étable. Et je pense qu'effectivement, c'est la première chose que nous devons faire je dirais, pour au moment de Noël, c'est d'être prêt à changer de théologie. La foi dans un Dieu tout-puissant qui pourrait tout régler sur terre, enlever la violence, enlever l'injustice, faire en sorte que les pauvres ne soient plus pauvres, eh bien, cette idée-là, c'est une idée infantile qu'il faut abandonner. Dieu n'est pas comme ça. Parce que même, je dirais, ce serait continuer à croire que Dieu est dans la violence et que Dieu est dans la puissance. Dieu n'est pas dans la violence ni dans la puissance, Dieu est dans la tendresse, dans l'amour et dans la fragilité. Et donc vous voyez qu'il y a là un bouleversement radical de théologie. Changer de théologie et comprendre que le Dieu que nous devons accueillir, il est dans la douceur et il est même dans l'impuissance d'une certaine manière. C'est-à-dire que un bébé pour changer le monde, c'est pas ce qu'attendaient les bergers. Ils auraient préféré un guerrier, ils auraient préféré une sorte de Rambo extraordinaire. Mais non, c'est un bébé qui ne peut rien faire. Et je crois que le bébé est signe de faiblesse, il est signe aussi de tendresse, mais il est aussi signe du fait que de fécondité. Or, je crois que pour arriver à la fécondité, il faut à un moment donné renoncer à la toute-puissance. Là, c'est mes années de psychanalyse qui m'ont appris ça, ou même simplement de parents. Pour pouvoir être parent, il faut renoncer à la toute-puissance. C'est-à-dire que vos enfants ne font jamais ce que vous voulez, et dès le moment où vous avez des enfants, eh bien, vous êtes obligé de prendre un recul extraordinaire par rapport à ce que vous pensiez capable de réaliser et par rapport aux principes que vous pouviez avoir. Quelqu'un m'a dit, alors que j'étais jeune père, il m'a dit, tu sais, autrefois j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. C'est-à-dire que, effectivement, être parent, c'est, je le crois, renoncer à la toute-puissance. Et je crois que le Dieu que nous adorons ne peut être fécond dans notre vie que si nous renonçons à cette image infantile du Dieu tout-puissant. C'est-à-dire de ce Dieu finalement superstitieux. Il suffit de le prier, de lui offrir quelque chose et Dieu va faire tout ce que l'on veut, tout ce que l'on attend. Eh bien non, justement, vous êtes grand là aujourd'hui. Il n'est plus temps de croire au Père Noël. Dieu n'est pas le Père Noël. Dieu n'est pas un magicien capable de tout faire. Tant que vous attendez de Dieu cette image infantile de Dieu, il ne pourra rien donner dans votre vie. Ou si ce n'est des contrariétés, si ce n'est des déceptions, parce que vous direz, pourquoi mon enfant est malade? Pourquoi mon proche est mort? Pourquoi y a-t-il des guerres? Où est Dieu? Eh bien oui, c'est pas où est Dieu, c'est que vous vous trompez de théologie. Voilà, vous adorez un Dieu qui n'est pas Dieu. Et là, la leçon de théologie au berger, c'est ça. Votre Dieu, il est là. Mais Dieu, vous n'avez pas à le chercher dans les actions éclatantes de puissante, mais dans un bébé faible, parce que Dieu, il est tendresse, amour, et même, je dirais, presque faiblesse. Et je vous disais, j'ai appris ça parce que je crois que Dieu effectivement n'agit pas matériellement dans le monde. Voilà, je vais vous le dire aussi brutalement que l'ange l'a dit au berger. Je ne crois pas que Dieu soit en mesure d'enlever les guerres, de guérir un enfant malade ou de faire autre chose, parce que Dieu n'agit pas politiquement. Mais Dieu agit intérieurement. Et c'est là, voilà, pourquoi les chrétiens disent « Jésus est le Messie », bien que les promesses ne soient pas réalisées matériellement. Parce que Dieu n'agit pas matériellement. Et les promesses de Dieu ne sont pas politiques, extérieures à nous, matérielles, mais elles sont intérieures. Et je crois, oui, que Dieu peut peut-être pas faire en sorte qu'il y ait la paix sur la terre, qu'il n'y ait plus de terroristes ou je ne sais quoi. Mais Dieu peut faire en sorte qu'il y ait la paix dans nos cœurs. Et ça, c'est vrai, oui. Cet enfant de la crèche, il met la paix dans notre cœur. Et cet enfant dans la crèche, ce don de Jésus, il met l'harmonie en nous. Et au lieu que notre être soit une sorte de lieu de déchirement entre ce qui en nous est lion et ce qui en nous est agneau, loup et agneau, il arrive à mettre la paix en nous parce qu'il met le pardon, l'harmonie et la grâce en nous. Donc oui, cette promesse est donné. Et là encore, je vais, puisqu'on parle de bébés, être obligé de parler de ma propre expérience. Des bébés, il y a celui de Noël, et moi j'en ai eu trois autres en plus. Et je vais vous dire, d'avoir trois enfants ne m'a donné aucun pouvoir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'a plutôt retiré une partie de mon pouvoir parce que mes enfants ne font pas forcément ce que je voudrais. Ça ne m'a absolument pas enrichi matériellement. Voilà, si on attend de Dieu des actions matérielles, avoir un enfant, c'est pas un bon plan pour être riche, pas du tout, du tout, du tout. Ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, ça vous prive de sommeil, ça vous casse vos objets précieux dans la maison. Et après, il faut payer, 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 tout le temps. Excusez-moi, mes enfants sont là, ils sont venus pour se faire maltraiter. Mais, et donc je dirais matériellement, si vous ne regardez que l'aspect matériel et concret, n'ayez pas d'enfant. C'est un très mauvais choix. Mais pourtant, je dois dire que c'est quelle richesse, quel bonheur, quelle joie, quel trésor. Et ça change une vie. Oui, oui, ça ne m'a pas rendu plus riche, mais ça a changé ma vie. Ça m'a rendu plus riche intérieurement. Parce qu'avoir des enfants, on apprend à donner, on apprend à pardonner, on apprend à vivre pour un autre, on apprend à se tourner vers la vie, on apprend à accueillir un autre qui n'est pas soi, on apprend à se tourner vers l'avenir et à s'oublier soi-même. Donc oui, merci, donc mes enfants. Je pense que ça donne rien de matériel, mais les richesses les plus grandes de la vie. Et donc voilà, on nous dit, voyez Dieu, ce qu'il vous offre, c'est un enfant. Beau cadeau. Matériellement, ça ne va pas changer les guerres dans le monde, hein. Rien du tout. Et ça n'empêche pas qu'au moment de Noël, nous sommes menacés et que l'État français est obligé de mettre des soldats en armes pour nous protéger. Mais Dieu n'est pas de cet ordre-là. Il y a une richesse dans le cœur qui est tout à fait autre chose. Et donc cet enfant, il nous apporte ce Dieu qui agit non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur même. Et je peux vous dire, tout le monde n'a peut-être pas la chance de faire cette expérience directe, d'avoir des enfants. Certains sont trop jeunes, d'autres trop vieux, ou d'autres n'ont pas eu ça. Mais justement, Noël, c'est un bébé pour tout le monde. Donc voilà, même si vous n'avez pas eu d'enfant dans votre vie, vous en avez un, c'est l'enfant Jésus. C'est votre bébé. Voilà. C'est le bébé de chacun. Et nous sommes ainsi invités à accueillir Dieu, justement comme un enfant, c'est-à-dire comme celui qui nous sauve, justement parce qu'il ne donne rien, mais qu'il nous apprend à nous tourner autrement vers la vie et vers les autres. Et voilà cette conviction chrétienne fondamentale de l'attente messianique. Les dons du Messie ne sont pas matériels, mais spirituels. C'est la paix intérieure, c'est la générosité. Le don de Dieu, ce n'est pas de nous apprendre à recevoir indéfiniment, mais d'apprendre à donner. Et le monde matériel, je le crois, n'a très peu d'importance finalement, ou voire pas du tout. Peu importe, peu importe. Le don de Dieu est tout à fait autre chose. La deuxième leçon que donne l'ange avec son bébé au berger, c'est que le bébé, c'est là, même pour changer le monde, c'est la force de la non-violence. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est uniquement finalement de se couper du monde et de renoncer à ce qui se passe dans le monde, peut-être pas. Parce que je ne pense pas que l'Évangile renonce à tout projet politique. Et je ne pense pas que l'Évangile soit juste une promesse pour soi en disant « quoi qu'il se passe, je m'en fiche ». Je crois que l'Évangile peut changer le monde même. Alors, peut-être pas tout de suite, mais il peut changer le monde. Parce qu'un bébé, ça a une très grande force. Je dirais, ça désarme. Et il y a un passage comme ça que j'aime beaucoup dans le psaume 8, où il dit, justement, l'enfant, avoir ses enfants, ses tout-petits qui sont encore à la mamelle, et le psaume 8 dit, « Rempart que tu opposes à l'adversaire ». C'est-à-dire que quand on voit un bébé, on est désarmé. On ne peut pas faire preuve de violence sur un enfant. Et je crois que l'humanité est sauvée par le fait qu'il y ait des enfants. C'est-à-dire que même les gens les plus durs, les plus égoïstes et les plus méchants fondent devant un enfant et devant leur propre enfant. Et donc c'est ça qui est donné au berger. C'est un concentré de tendresse, d'amour et de fragilité, parce que ce sont ça les vraies valeurs. Et je crois que là le Christ apporte au monde ce dont il a besoin. Et il dit, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas plus de force ou plus de violence, c'est au contraire plus de tendresse, plus de fragilité, plus d'amour et plus de douceur. Autre chose que je vois encore dans cette leçon de théologie faite au berger, c'est que, bon là je viens de faire un éloge remarquable des bébés, mais néanmoins un bébé n'est pas appelé à rester bébé. Il doit grandir. Et c'est l'autre chose, l'autre manière avec laquelle parfois les chrétiens s'en sortent sur cette remise en cause de la messianité du Christ. C'est de dire, les Juifs attendent un Messie qui vienne d'un coup, c'est-à-dire le royaume de Dieu qui, boum, tombe d'un coup, les promesses se réalisent, le Messie est là, et d'un coup, plus de guerre, plus de violence, tout est réalisé, tout le monde à Jérusalem pour adorer Dieu. Et les chrétiens disent non, ça n'est pas comme ça que ça se passe, mais le royaume de Dieu, il doit arriver petit à petit. Et du coup, le Messie n'est pas donné d'un coup tout fait, mais il est donné bébé. C'est-à-dire que, eh ben, il va falloir attendre un peu pour qu'il soit grand. Parce que je vais vous dire, certes, le bébé de Noël, il est sympathique, mais heureusement qu'il a grandi quand même. Et heureusement qu'à 30 ans, il a pu nous dire les béatitudes. Heureusement qu'il a pu nous enseigner le Notre Père. Heureusement qu'il a pu guérir les aveugles et les lépreux. Heureusement qu'il a pu ressusciter Lazare. Sinon, ce bébé, ça va 2 minutes. Mais on a quand même besoin que quelque chose se passe. Et donc voilà, le bébé, c'est que le royaume de Dieu, il vient progressivement et que nous avons là, à Noël, le point de départ d'un processus qui est appelé à se développer. Et donc le royaume, voilà, je suis désolé pour vous, il ne viendra pas d'un coup, mais il commence à venir petit à petit. Ça, c'est sans arrêt présent dans les paraboles de l'Évangile, où Jésus sans cesse dit « le royaume de Dieu ». Il est semblable, tenez, à un grain de moutarde qui est planté, c'est la plus petite des graines, mais elle grandit et elle deviendra un arbre extraordinaire où même les oiseaux du ciel seront là. Et donc à Noël, on voit un bébé, est-ce le royaume? Non, c'est le germe du royaume, c'est la promesse du royaume. Jésus en soi est peu de choses, petit bébé, mais il est appelé à grandir. Et donc le royaume de Dieu, vous disais-je, il doit arriver petit à petit et progressivement. Et Jésus est le point de départ de cette arrivée. Il est la graine. J'aime cette idée de graine. Parce que dans une graine, j'ai appris à l'époque où j'ai fait un peu de biologie, que dans la graine, en fait, il y a toute l'information qui est présente de la plante à venir, de l'arbre, du fruit, de tout, ou même dans l'œuf, je dirais, d'un être vivant, toute l'information est présente dans un tout petit volume, mais tout y est. C'est l'ADN, je dirais, de l'être qui va venir. Eh bien, certes, Jésus, c'est ça. C'est l'information créatrice du monde nouveau. Et il y a dans l'Évangile un message concentré du monde nouveau que nous sommes appelés à accueillir et dans lequel nous sommes invités à travailler. Alors on dit en général que c'est bien ça, le problème du mal. Ça n'est pas que Dieu ait fait un monde tout fait en disant « dis donc Dieu, là j'ai des remarques parce qu'il y a du problème ». C'est que le monde il est en train de se faire et que Dieu est en train de créer le monde meilleur. Donc le royaume de Dieu il est en genèse et il doit progresser petit à petit. Et nous sommes nous des ouvriers du royaume pour travailler à un monde meilleur où il y ait plus de paix et plus de fraternité. Et ce monde, il est tout entier compris dans le message génétique de l'Évangile, qui nous dit ce que doit être ce monde, piloté non plus par des désirs de puissance, des désirs de possession, des jalousies, des égoïsmes ou autre chose, ou de pouvoir, mais piloté par une autre logique, tout autre, qui est celle du pardon, de la grâce, de la fraternité, de la douceur, de la bonté, de la bienveillance et du partage. Alors vous me direz que on peut douter que ça fonctionne. Est-ce que le monde réellement progresse? Est-ce qu'on arrivera un jour au royaume de Dieu? On y a cru. Je dirais même, il y a un an ou deux, on pouvait y croire. Et puis maintenant, on n'y croit plus. On se dit, mais la violence revient d'une façon incessante. On croyait être débarrassé de toute menace de guerre, et voilà tout à coup qu'on nous annonce encore une guerre mondiale. Mais zut, où est le progrès? Eh bien, je ne sais pas, je vais vous dire, je ne sais pas si le monde progresse. Mais en tout cas, il peut progresser en nous, parce que chacun de nous est un monde en lui-même. Et ça, je le crois. Jésus a dit, le royaume de Dieu, il est au-dedans de vous. Et donc, chacun doit avancer dans sa vie vers le royaume de Dieu. Donc finalement, peu importe le monde, je ne sais pas s'il arrivera un jour à la perfection, vers un modèle idéal où tout le monde sera gentil. Jésus a dit d'ailleurs que non. Donc ça, là-dessus, problème est réglé. Mais en fait, le royaume, c'est quelque chose que chacun de nous pouvons travailler en nous-mêmes. Et là encore, c'est un travail de croissance et un travail de progression lente. Et pour que ce royaume grandisse en nous, pour que la promesse messianique s'établisse en nous, elle ne le fera pas du jour au lendemain, mais progressivement. Et pour ça, il faut intégrer le germe de l'Évangile, cette nouvelle programmation du royaume de Dieu, qui est cette information comprise dans la prédication du Christ. Parce que oui, c'est ça, en fait, l'Évangile, c'est une information. C'est une manière de reprogrammer sa vie, Et donc il faut, vous savez, comme dans les ordinateurs, parfois on me dit, votre ordinateur n'est pas à jour, changez le logiciel système. Eh bien c'est ça, changez votre logiciel système et installez le nouveau système Évangile 2.0. Ça, c'est un système extraordinaire. Et vous allez voir, votre vie, elle va marcher d'une manière fantastique. Et c'est ça l'Évangile. J'abandonne mes vieilles programmations et je prends le nouveau système Enfant Jésus. Ça, c'est ma vie, c'est mon idéal, c'est ma façon de vivre dans la vie. Et du coup, ça me fait changer la vision aussi que j'avais. J'ai prêché, peut-être l'an dernier, au moment de Noël, en disant, certes, Jésus est né il y a 2000 ans, mais il faut encore qu'il naisse en vous, aujourd'hui. C'est peut-être pas faux, mais en fait, le système, c'est peut-être pas ça. Jésus, il est né. Ce qu'il faut, c'est maintenant que vous l'adoptiez. C'est-à-dire, un enfant, c'est ça. Un enfant ne peut vivre que s'il a des parents. Et l'enfant Jésus va vivre parce que Joseph va l'adopter. C'est pas le sien, il le prend, il le nourrit. Et même Marie, elle aurait pu l'abandonner. Mais un enfant ne vit que s'il y a des parents qui adoptent l'enfant. Et donc, nous devons, face à un bébé, on doit dire, d'accord, je m'en occupe. Comme les parrains-marraines qui disent, oui, je donnerai à cet enfant ce dont il a besoin, je vais m'en occuper, je l'adopte. Eh bien, nous devons adopter l'enfant Jésus, c'est-à-dire le mettre en nous-mêmes et le soigner pour qu'il grandisse. Parce que le bébé confié, ce n'est pas juste à attendre qu'il grandisse tout seul, mais cet enfant Jésus, il faut le mettre dans sa vie et je dirais dans sa famille. Pour ça que je vous disais peut-être que vous n'avez pas eu d'enfant, mais si, vous en avez un, c'est l'enfant Jésus. Et cet enfant Jésus, c'est ce Christ de l'Évangile et c'est aussi tout un chacun que l'on rencontre parce que chacun de nos prochains est cet enfant Jésus ou alors c'est ce message de l'Évangile que nous devons soigner pour qu'il grandisse. Alors voilà, à Noël, un bébé est donné. Qu'allez-vous en faire maintenant? Vous attendez l'an prochain pour voir s'il est encore en vie, pour revenir au culte de Noël? Ou si vous vous dites, eh bien parfait, on me colle un bébé sur les bras, et d'accord, je m'en occupe. Je m'en occupe, je vais le soigner, y faire attention, le mettre en moi-même, et que ce soit une partie de ma famille, et que Jésus soit un de nos enfants, soit un des nôtres, et soit vraiment, je dirais, notre propre enfant. Et ça, ça n'est pas imposé. Là encore, gros changement par rapport à, je dirais, au modèle messianique antique, c'est que le royaume de Dieu ne vient pas en s'imposant, comme si que l'on soit bon ou mauvais, de toute façon le Messie arrive et change le monde. Mais dans le modèle chrétien, le royaume de Dieu, il est proposé. Et il demande l'adhésion de ceux qui veulent le recevoir. Le royaume de Dieu, donc, n'arrive pas malgré nous. Mais il n'arrive même pas sur toute la terre, il n'arrive que localement et si nous le voulons bien. Donc c'est ça en fait, c'est pas un messie collectif, c'est un Messie individuel et qui ne peut changer que des individus si l'individu accueille le Messie. Donc Jésus changera, le bébé Jésus ne changera pas le monde tout seul. Il changera le monde si chacun de nous l'accueillons. Et c'est là, donc même, voyez-vous, même s'il n'y a pas de progrès global dans l'humanité, ça n'est pas grave, parce que chaque humain est l'ensemble de l'humanité. Et de toute façon, le progrès de l'humanité, je m'en fiche un peu, je serai sûrement mort avant que l'humanité ait progressé d'une façon considérable. Mais le royaume de Dieu, il vient personnellement dans chaque vie. Et quelle que soit la situation extérieure, il peut nous mener, nous, à l'accomplissement de la paix, de la confiance et de la joie, si nous le laissons grandir en nous. Et puis, je vous ai dit, donc, il faut faire cette démarche, on demande au berger, aller vers l'enfant, cette démarche, c'est-à-dire que si vous n'y allez pas, il ne viendra pas à vous. Il faut y aller, cette démarche. Et ce bébé de Noël, qui est le plus grand cadeau, il n'est pas facile à trouver. Il n'est pas facile à trouver, il est tout petit. Ce n'est pas quelque chose d'éclatant et de tapageur, je vous l'ai dit. Il ne dit pas « allez-y, vous verrez, il y a les éclairs, les tonnerres et les trompettes qui sonnent, vous trouverez facilement ». Mais au contraire, il n'y a rien. Et tellement rien que quand les mages le trouvent, même l'étoile, c'est peu de choses une étoile, même l'étoile s'arrête. C'est-à-dire que c'est au contraire là où il n'y a rien. Et donc cet enfant Jésus, c'est pas une nouvelle très éclatante. C'est pas du tapageur. Ça n'est pas facile à trouver. Et même le recensement de Quirinus, qui veut compter tout le monde, n'arrive pas à le compter, puisqu'il naît après. Et même Hérode, qui après essaye de trouver Jésus, va tuer tous les bébés lors du massacre des innocents, il ne va pas le trouver. Donc voyez, cet enfant Jésus, il n'est pas facile à trouver. Et on nous montre qu'il est tout modeste, tout humble. Il n'est même pas dans un palais royal. Il est dans une étable, dans une mangeoire. Il n'est même pas dans l'hôtellerie parce que là, il y avait trop de bruit, trop de tapage, trop de fêtes, trop de monde. Et Marie dit non, ce n'est pas une bonne place pour lui. Et elle l'emmène dans l'étable, dans la tranquillité, dans la solitude, loin des fêtes et des agitations. Et je crois que c'est là qu'on peut trouver cet enfant Jésus. C'est pas dans, je dirais, dans l'agitation, dans l'activisme, mais c'est au contraire dans le silence. Et il y a là la responsabilité de tout chrétien, si nous voulons que Jésus naisse en nous, que nous soyons non pas, je dirais, l'hôtellerie avec toute son agitation, mais que nous soyons nous-mêmes comme cette étable de simplicité, de pauvreté même finalement, de silence et de, j'irais même, c'est mon petit couplet écologique, mais de simplicité par rapport à la nature. C'est-à-dire il y a le bœuf et l'âne, et quand on a un rapport finalement simple avec les choses, avec l'environnement, quand il y a du silence, du recueillement personnel, alors là, peut nous être donné le plus beau des cadeaux. C'est pas quelque chose de plus à posséder, parce que ce n'est pas la raison, mais c'est un germe de vie, un amour donné, une grâce, une tendresse offerte pour que nous devenions nous-mêmes des êtres d'amour, de tendresse, de paix et de grâce. Eh bien, oui, nous pouvons, nous, rendre grâce à Dieu pour ce cadeau de Noël, ce cadeau de la grâce qui nous apprend à chercher l'invisible et à être en quête de ce qu'est non pas recevoir, mais soi-même donner pour la plus grande paix de notre vie, pour l'accomplissement en nous de tout ce que Dieu peut nous offrir et pour que nous devenions nous-mêmes à notre tour des germes de paix, de vie, de fraternité et d'espérance dans ce monde. Amen.